Je voudrais, conformément à mon titre, mais de manière plus générale, mon titre, je vous le rappelle, était de quelques penchants inavoués de la démocratie. Je vais commencer par parler de ce que les communautés politiques ne s'avouent pas à elles-mêmes. Je vais donc, plutôt que parler des communautés inavouables, je parlerai de l'inavouable des communautés. Depuis longtemps, je considère que, pour les êtres parlants, la notion même de communauté fait problème, puisque pour qu'un être parlant entre en communauté avec d'autres êtres parlants, tout en étant lui-même, continuant lui-même d'être un être parlant, il faut qu'il accepte de n'être pas seul à parler. Mais le problème, c'est que s'il n'est pas seul à parler, il rencontre un autre réel qui est qu'on ne parle pas en cœur. Et par voie de conséquence, si tout le monde, tous les êtres parlants doivent parler, il faut que certains se taisent pendant qu'un seul parle. Le silence et le parler alternent. On peut résumer la chose de la manière suivante. Dans une multiplicité nombreuse, il faut qu'à chaque instant, tous se taisent, sauf un. Pour que cela soit accepté, je dirais qu'il faut un geste qui est, à mes yeux, le geste politique originaire. Le sujet accepte de se taire en attente du moment où la parole lui revient. J'ai souvent pensé que la pièce de Beckett, En attendant Godot, était une sorte de mythe de ce moment. Les personnages qui sont en scène, évidemment, ils échangent des paroles, mais ce sont des paroles vides. Et à mon avis, c'est la représentation mythique d'un silence. Et ils attendent Godot, qui est la parole qui va venir à chacun. Il est possible que Godot ne vienne jamais. Mais s'il venait, alors la communauté d'êtres parlants serait constituée. Chacun aurait patienté et sa patience aurait été, j'emploie le mot maintenant, je le préciserai, récompensée. La politique, c'est une décision originaire de patience. La patience politique, c'est accepter de se taire à l'horizon d'un retour de la parole. Une communauté, ou est-ce qu'il faudrait dire une communauté, une rencontre, une coprésence d'êtres parlants dont l'un d'entre eux ou certains d'entre eux accepteraient tous d'être muets pour toujours, est-ce que c'est une communauté? Est-ce qu'on peut la considérer comme une communauté d'êtres parlants? Je laisse ce problème de côté, j'évoque simplement pour indiquer dans quel sens j'orienterai ma réflexion à Sade, aux tyrannies, aux persécutions, et si vous voulez, tout autant au marché mondial. Dans les communautés politiques, l'impossible de la simultanéité est constitutif. Mais il n'est pas inavouable. Au contraire, je crois que toutes les doctrines de la politique rencontrent ce réel. Il n'y a pas de possibilité de parler tous en même temps. La plupart traitent cet impossible ouvertement sous la forme d'un renoncement consenti à l'horizon d'un échange. La communauté politique repose sur la possibilité de se taire en échange d'un retour de la parole qu'on attend, mais qui vous est promis et qui vous permet d'être plus d'un seul. La communauté politique lui donne l'assurance que son silence n'abolit pas définitivement son être parlant d'être parlant. Il se tait, mais pour autant, il ne perd pas la possibilité, sa position d'être parlant. Je crois qu'on touche là une forme de contrat, qui est le contrat politique, plus encore que le contrat social. Ce qu'on appelait dans la cité antique la démocratie, c'était que tous parlent à leur tour. La monarchie, c'était qu'un seul parle, mais en incarnant à lui seul la possibilité de chacun de parler. Il est en quelque sorte la promesse qui ne se réalisera pas forcément sur terre, mais qui est néanmoins maintenue comme promesse que la parole peut-être reviendra. L'oligarchie, c'est à peu près le même système, sauf que ce sont plusieurs qui témoignent. Michel Foucault, réfléchissant sur la démocratie, avait mis au centre de sa réflexion ce qu'il appelait la parrhésia. Le terme est antique, il a repris de la vitalité sous la plume de Foucault. Si on l'analyse, le premier élément de ce mot, par, c'est une forme du mot grec qui signifie tout ou tous. Hérésia, parrhésia, c'est ce que vous trouvez sous la forme pan dans panorama, n'est-ce pas, ou panoplie. Enfin, c'est une forme du nom, du vocable du tous. Et rhésia, c'est le mot que vous trouvez dans rhéteur, rhétorique. Donc la parrhésia, c'est la possibilité de parler pour tous. Et cela définit très précisément la démocratie ou le contrat démocratique tel que je l'évoquais tout à l'heure. La promesse du retour de la parole est proférée par tous, tour à tour, et accomplit et s'accomplit pour tous, tour à tour. Au passage, vous voyez bien pourquoi, dans les derniers mois, l'expression du « pour tous », peu importe que ça ait été, en l'occurrence, le mariage pour tous, ça aurait pu être le droit de vote pour tous, ou l'éducation pour tous, mais le signifiant pour tous est absolument crucial dans la démocratie. Je dirais que ça fait partie de la tradition de la démocratie telle qu'elle est apparue dans le monde grec et telle que un certain nombre de sujets continuent d'espérer qu'elle fonctionne encore. Crucial, par conséquent, dans la politique, dans la communauté politique, la question du pour tous, la question du tour de parole, de qu'est-ce que l'on appelle la parole politique, est-ce que c'est seulement le droit de vote, est-ce que c'est autre chose, etc. Je voudrais en venir maintenant à ce que j'appellerais la matérialité du pour tous. Dans la cité antique, à Athènes en particulier, le pour tous devait pouvoir s'embrasser d'un seul regard. Il y avait l'agora, la place publique, mais très important aussi le théâtre. Quand on parle du théâtre comme ayant une fonction politique à Athènes, C'est parce que au théâtre, les spectateurs sur les gradins pouvaient s'embrasser eux-mêmes d'un seul regard, et parce que le regard des masques sur la scène les regardait tous en un seul instant. On peut discuter sur la question de savoir s'il y a une superposition exacte entre le théâtre et la cité. Nicole Leroux avait soutenu qu'il y avait une énorme différence puisque la cité ne connaissait que les hommes libres, alors, je veux dire les mâles libres, alors que le théâtre admet les esclaves et les femmes, à la fois sur la scène et dans le public. Mais indépendamment de cette différence, il y a, je crois, une profonde corrélation, qui est ce moment du « pour tous », dans le regard. Pour le préciser encore, j'appellerai ce moment le moment du « tous en un ». Dans la démocratie athénienne, le moment du « tous en un », c'est l'assemblée, la place publique, le théâtre. Mais paradoxalement, et là je ne fais finalement que rejoindre Freud, dans la tyrannie, le tous en un existe aussi. C'est la foule. Dans la monarchie, il existe encore. Et après tout, rappelez-vous, autour de nous, dans notre vie courante, nous avons la prétention de vivre en démocratie, ces espèces de moments du tous en un que sont le meeting, le défilé du 14 juillet, le moment du bain de foule où le dirigeant serre des mains, c'est le moment du tous en un. On fait comme si c'était le moment en quelque sorte constitutif de du contrat politique qui revenait. Alors on peut dire que c'est ridicule et on peut dire que c'est très sérieux. C'est ridicule à certains égards, mais à d'autres égards c'est très sérieux parce que ça rappelle, y compris dans le monde actuel, et nous verrons plus tard qu'il pose problème à l'égard du tous en un, que ce moment qui est le moment qui rappelle le contrat originaire de la politique, a une réalité. Même dans la tyrannie, si j'étais un homme simple, je dirais, mais dans une tyrannie, pourquoi le tyran souhaite-t-il être acclamé? Que vaut l'acclamation d'un peuple asservi? Mais en fait, c'est très précieux, parce que ça rappelle au tyran et à ses sujets, que le tyran reste une figure politique. On peut argumenter que c'est un mensonge, et ça l'est vraisemblablement. Mais c'est très important. C'est-à-dire que si le tyran vivait dans le silence absolu, alors on sortirait de la politique. Et il y a des réalisations de cela. Un des points qui m'a toujours paru majeur, dans, par exemple, le film de Spielberg sur les camps de concentration, la liste de Schindler, c'est qu'il fait apparaître le camp de concentration comme un espace de silence absolu de la part de ceux qui sont soumis. La tyrannie de l'ordre du camp était si forte que les gardiens n'avaient pas besoin d'être acclamés, à la différence de ceux qu'ils avaient au-dessus d'eux, disons Hitler ou Himmler ou Göring, qui eux avaient besoin des acclamations de la foule. J'ai nommé Freud, sans entrer dans le détail, je dirais que je ne fais que retrouver l'analyse qu'il a faite des foules dans Psychologie collective et analyse du moi. Je laisse de côté ce n'est pas tout à fait un détail, mais enfin, bon. Foule est le terme que le modèle de Freud avait utilisé, à savoir Gustave Le Bon, parlait de psychologie des foules, et Freud, lui, parle de masse. Foule et masse, ça n'est pas la même chose. Donc l'allemand choisit masse, le français choisit foule. Il y a néanmoins un point commun entre ces deux termes, c'est qu'il s'agit d'une multiplicité, et qu'il s'agit d'une multiplicité d'êtres parlants. Dans le mot foule, on ne le souligne peut-être pas toujours, mais il s'agit d'êtres parlants. Bien entendu, on peut toujours dire une foule de choses, etc. Mais moi, en tout cas, pour ma part, j'hésiterais à parler d'une foule d'animaux, par exemple. Pour moi, une foule, ce sont, quand il s'agit d'êtres animés, ce sont des êtres parlants. Peu importe, c'est de la langue, ça n'est pas très important. Freud avait rencontré le problème de la multiplicité, mais il l'avait rencontré jusque-là dans le cadre d'une multiplicité dont les membres portaient des noms, soit des noms propres, soit des noms de parenté, le père, la mère, soit des noms renvoyant à une position, l'être aimé par exemple. Avec la foule, il découvre quelque chose d'autre qui est la multiplicité totalement anonyme. Même si on peut nommer occasionnellement tel ou tel, la constitution même de la foule est son anonymat. Et il n'y a pas d'autre principe de communauté de la foule, il n'y a rien d'autre de commun aux membres de la foule que d'appartenir à la foule. Et là, on est dans une situation totalement autre que celle que Freud avait rencontrée précédemment. Et cette situation, il l'aborde, et il l'aborde en dégageant ce qu'il appelle le trait unaire, ce qui veut dire que la foule elle-même tire d'elle-même le un qui, en quelque sorte, la constitue comme foule. Le nom particulier du porteur du trait unaire n'est pas le principe de constitution de la foule. C'est en vérité le contraire. C'est la foule qui tire d'elle-même ce un qui va être porté par quelqu'un qui peut avoir un nom. On a beaucoup, et on a eu raison, on a beaucoup cherché à commenter Freud à partir des régimes totalitaires. Bien entendu, il faut se rappeler que Freud écrivait en 1921, donc avant que les régimes totalitaires ne commencent à se déployer en Europe. Mais on a pensé, je répète, on n'a pas eu tort, on a même eu raison, de penser qu'il y avait une confirmation de Freud dans le fonctionnement des régimes totalitaires. Et un des exemples que l'on pouvait prendre du trait unaire, c'était la fameuse moustache de Hitler, évidemment. C'est absolument un trait vertical, unaire. Tout, à lui seul, il constituait la foule nazie. Soit. J'ai jamais cru à ça. Je pense que le trait unaire, tel que Freud le définit, ça n'est pas un accident de physionomie ou la moustache de Hitler ou chez Plutarque le cou penché d'Alexandre, puisqu'il commente ce point, le fait que les généraux d'Alexandre s'ingéniaient à pencher la tête comme Alexandre, parce qu'Alexandre, lui, avait des muscles du cou asymétriques. Un côté du cou, les muscles étaient plus courts, et donc il avait la tête penchée. Donc tous les généraux d'Alexandre penchaient la tête comme ça pour... Bon. On pourrait croire que c'est le trait unaire et que, effectivement, comme les Anglais l'ont fait à un moment donné, si on rajoute une moustache au portrait de Madame Thatcher, on obtient soit le résultat que une partie des gens disent qu'ils ne voient pas la différence, l'autre partie disent que le portrait est plus ressemblant qu'avant. Peu importe. À mes yeux, c'est pas ça le problème. Le trait unaire, je pense notamment à Hitler, c'est autre chose, c'est sa voix. C'est la voix de Hitler, et c'est ce que je crois Chaplin avait si bien compris. L'avait compris d'autant mieux que, d'un certain point de vue, la moustache de Hitler, c'est lui qui l'avait inventée, puisque c'est celle de Charlot. Et il s'était bien amené à se poser la question, si la moustache est le trait unaire, pourquoi ma moustache à moi, qui est le modèle de celle de Hitler, n'a pas fonctionné de cette façon-là? Et à la fin du dictateur, c'est la voix, enfin plus exactement le cours du film, c'est la voix qui est le porteur du trait unaire. Ça peut être, dans certains cas, uniquement un nom propre ou un slogan. Le nom propre que l'on répète dans certains meetings ou le slogan. Et tout cela n'est absolument pas propre au régime totalitaire. Vous avez un fonctionnement du tous en un de la foule aussi bien dans les régimes de liberté que dans des régimes d'oppression. Le Yes We Can d'Obama est un trait unaire tout autant que la voix de Hitler. La finalité est inverse, mais le fonctionnement est le même. Une foule n'est pas en soi une foule totalitaire. Mais, mensongèrement ou pas, y compris dans les régimes totalitaires, elle rappelle le contrat originaire de la politique, qui est que ceux qui font partie de la foule se considèrent comme étant toujours des êtres parlants, alors même qu'ils se taisent pour écouter la parole de celui qui est à la tribune porteur du trait unaire, que ce soit sa voix ou un slogan ou un nom propre ou un uniforme, peu importe. Ce porteur du trait unaire leur promettant que la parole leur reviendra. Et de fait, quand ils se mettent à acclamer, que ce soit le dictateur ou que ce soit la figure de liberté, la parole leur revient. Donc le parcours du contrat originaire est accompli. Je dirais que tout cela fonctionne, on pourrait dire, comme dans le meilleur des mondes, si le tous est bien constitué de la même manière dans le tous antique de la parrhésia ou dans le tous contemporain que vous trouvez dans la foule, y compris dans la foule dispersée, ceux qui ont vu le discours d'un roi verront bien que tout le film consiste à montrer comment le bégaiement d'un roi peut devenir le trait unaire de la démocratie britannique. Et, bien entendu, il faut que le bégaiement soit surmonté, et c'est ce qui arrive à la fin du film, où la lutte des Britanniques contre l'oppression nazie qui s'annonce sur l'Europe va se concentrer autour de ce trait unaire qui est un bégaiement surmonté. Est-ce que le tous actuel, le nôtre en quelque sorte, est bien le même? Est-ce que le tous de l'Antiquité, de la parrhésia, ou le tous de la démocratie britannique, ou le tous grimaçant de la dictature totalitaire, est-ce que tout cela, c'est pareil? C'est pareil si on croit que cela ramène de la même manière au contrat originaire de la politique, il faut que le tout soit le même, avec des conséquences différentes, mais que le tout soit le même. Que le tous soit le même, c'est-à-dire que le moment du tous en un soit le même. Que le tous en un du théâtre antique, le tous en un de la cérémonie nazie, que le tous en un du meeting d'Obama, que le tous en un du peuple britannique écoutant le discours du roi, repose sur la même structure du tous. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est de savoir si ce fonctionnement du tous est bien resté le même jusqu'à nos jours. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose au tous? Eh bien, je répondrai à cette question que oui, il est arrivé quelque chose au tous. Parce que un changement s'est produit concernant la multiplicité. Je résumerai ce changement de la manière suivante. Je dirais que nous sommes passés du grand nombre au très grand nombre. La cité antique n'est pas, surtout s'il s'agit de la démocratie athénienne, elle est nombreuse. Mais c'est de l'ordre du grand nombre. Et d'ailleurs, Platon se réfléchit au nombre idéal. Il se demande s'il n'y a pas un maximum qu'il ne faut pas dépasser. Et il essaye de le calculer. Ça veut dire que pour lui, la question du nombre est importante et le nombre idéal auquel il parvient est un nombre relativement élevé, en dizaines de milliers. Donc on est dans l'ordre du grand nombre. Mais on n'est pas dans l'ordre du très grand nombre. Et on est d'autant moins dans l'ordre du très grand nombre que pour les Grecs, le très grand nombre, ils savent ce que c'est, ils le voient en action ailleurs, de l'autre côté. C'est le monde de l'Empire perse. Le monde de l'Empire perse est un monde du très grand nombre et c'est aussi le monde où la parésia est impossible. Ne serait-ce qu'à cause du très grand nombre. Alors, la question que je pose, c'est, enfin, plus exactement, j'affirme, c'est la réponse à la question que je posais, je crois que nous, modernes, contemporains, nous sommes passés du grand nombre au très grand nombre. Et ça n'est pas simplement une question de nombre. Je dirais que la différence entre le grand nombre et le très grand nombre, c'est que le grand nombre est encore tel qu'il est sensible à la différence qu'introduit l'ajout, l'addition ou la soustraction d'un 1. Plus 1 ou moins 1, cela fait un autre grand nombre. Autrement dit, si vous définissez le grand nombre des citoyens d'une république idéale comme, mettons, je n'ai plus le chiffre en tête de Platon, mettons 30 000, quelque chose de cet ordre, eh bien, 30 000 moins 1, ce ne sera pas 30 000. Si c'est 30 000 plus 1, ce ne sera pas 30 000. Autrement dit, la différence entre plus 1 et moins 1 reste pertinente pour le grand nombre. Et si vous réfléchissez au théâtre athénien, et d'ailleurs au théâtre en général, vous savez que la question d'un spectateur en plus ou en moins, c'est une vraie question. Ici, par exemple, la question de savoir si on peut ajouter ou pas un siège, on est obligé de téléphoner à la gendarmerie pour savoir si les règles de la sécurité sont respectées ou pas. Nous sommes donc, je m'en félicite, au régime du grand nombre, mais nous ne sommes pas au régime du très grand nombre. Parce que le très grand nombre, lui, est totalement indifférent au plus un et au moins un. Que vous en ajoutiez un ou que vous en retiriez un, ça ne fait pas de différence. Et c'est pourquoi, par exemple, le métro parisien ne fonctionne pas comme le théâtre grec. C'est-à-dire que même si le wagon est plein, vous pouvez toujours y entrer quelqu'un en poussant. Ce qui veut dire que le métro parisien est au régime du très grand nombre. Et, du coup, d'ailleurs, vous voyez que ça n'est pas une question de nombre absolu, parce qu'en vérité, en termes de nombre absolu, il y a plus de monde au théâtre grec, tel qu'il était construit, que dans un wagon du métro parisien. Mais la question de savoir si le plus un ou le moins un fait une différence est quelque chose d'absolument crucial. Donc on peut imaginer le même groupe, si j'ose dire, qui va tantôt être du côté avec la même quantité, tantôt être du côté du grand nombre ou tantôt du très grand nombre. Je me rapproche de notre actualité en vous rappelant la très grande différence entre le vote et le sondage. Le vote, nous l'avons vu récemment, le vote, c'est à une voix près. Et s'il y a contestation, ça peut être justement sur cette voie en plus ou en moins. Le sondage est conçu de telle manière que un de plus ou un de moins, ça ne fasse pas de différence. Si un ou plus ou un en moins fait une différence, ça veut dire que votre sondage n'est pas bien fait. L'art de la statistique, qui est un art mathématique, consiste précisément à annuler cette différence du plus un ou du moins un, c'est-à-dire, en quelque sorte, à quitter cette branche de la mathématique, cette branche prestigieuse qui est l'arithmétique, où un nombre se définit dans la succession des nombres est encadré, si j'ose dire, par n est encadré par n moins 1 et n plus 1, c'est-à-dire que l'identité du nombre, quelle que soit sa petitesse ou sa grandeur, est déterminée par la différence entre plus 1 et moins 1. On quitte l'arithmétique pour aller vers la statistique, qui est une branche mathématique aussi prestigieuse, mais qui repose sur un principe totalement inverse, qui est le principe de la non-pertinence du plus 1 et du moins 1. On pourrait dire, au sens propre, que le très grand nombre est innombrable si le nombre est ce qui est sensible à la différence du plus 1 et du moins 1. Or, notre modernité est définie par la pertinence croissante de la statistique et l'importance croissante de la statistique par rapport à l'arithmétique, ce qui nous amène à considérer que ça n'est que par un hommage rendu au passé, c'est-à-dire au contrat politique d'autrefois, que nous continuons d'accorder au vote le primat sur le sondage. Je répète que le sondage n'est pas une prédiction. Les sondeurs le disent toujours. Ça n'est pas une prédiction, c'est une photographie de l'opinion. Mais on pourrait dire, mais justement, parce que c'est une photographie de l'opinion à l'instant où vous publiez votre sondage, et que vous avez inclus les marges d'erreur possibles, et que vous pouvez présenter un sondage qui est en quelque sorte à l'abri de la marge d'erreur, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le sondage comme faisant foi, puisque c'est la photographie? La photographie n'est-elle pas plus fidèle comme document, comme attestation, qu'un dessin? On pourrait donc dire que le vote, précisément parce que ça n'est pas une prédiction, devrait être aussi fiable, tout au moins, et peut-être plus, dans la mesure où c'est instantané, c'est dans l'instant, que le vote. Eh bien non, pour toute une série de raisons, nous continuons de considérer, et les sondeurs eux-mêmes continuent de considérer que le vote l'emporte. Et je dirais qu'il l'emporte parce qu'il nous rappelle, de façon bien plus vivante et directe que les acclamations, il nous rappelle ce qu'est le contrat politique originaire. C'est la patience politique qui consiste à attendre, quand on se tait, que la parole vous revienne. Même si on considère que c'était une fiction, l'instant du vote, précisément parce qu'il est muet, est en fait une prise de parole. Et la patience politique s'exprime dans la file d'attente qui contraint les votants à voter les uns après les autres, à ce qu'on ne mette pas à plusieurs les bulletins de vote. La succession des votants est en quelque sorte la projection, la métaphore, si vous voulez, en tout cas la projection du contrat politique originaire qui repose sur le réel de la non-simultanéité de la parole et sur la promesse que quand on se tait, la parole vous reviendra. On en arrive donc à une opposition. Le nombreux s'oppose au très nombreux. De nos jours, le nombreux est matérialisé par le vote. Le très nombreux est matérialisé par la statistique. Dans le monde antique, le nombreux était matérialisé dans la cité, et plus particulièrement dans la démocratie. Le très nombreux était matérialisé dans l'Empire. Je ne résiste pas au plaisir de citer quelqu'un que j'admire beaucoup, à savoir Tibère, réputé pour son caractère sanguinaire et ses turpitudes sexuelles. Il avait l'art de prononcer des mots politiques importants. Il avait commencé son règne en souhaitant rendre au Sénat un pouvoir de décision. Ça n'a pas marché, et il sortit d'une séance du Sénat en s'exclamant, on n'a pas la phrase originale, on n'a que la transcription, parce qu'il parlait en grec. Pourquoi parlait-il en grec? Je pourrais l'expliquer, mais je ne le ferai pas. On a donc la transcription de la phrase par Tacite, et il s'écriait « Ô homme, au pluriel, voué à la servitude ». On interprète cela souvent comme une remarque sur les sénateurs. Et c'est vraisemblablement vrai, il sortait d'une séance où les sénateurs s'étaient révélés absolument nuls, discutant de choses qui n'avaient aucune espèce d'intérêt, notamment interdire aux femmes de porter des vêtements trop luxueux. Tibère dit, qu'est-ce que c'est que cette question ridicule? Vous feriez bien mieux de vous poser la question suivante. Toute l'alimentation de l'Empire repose sur un seul pays, à savoir l'Égypte, et il suffit qu'on conquiert l'Égypte pour que l'Empire soit réduit à la famine. Ça, c'est une question. La question de savoir si les femmes s'habillent trop luxueusement, ça n'en est pas une. Donc, l'interprétation générale, courante, me paraît fondée, mais ne me paraît pas suffisante. Il me semble qu'il faut accorder beaucoup d'importance au pluriel, aux hommes au pluriel, voués à la servitude. Ça veut dire que dès que les hommes sont en très grand nombre, ils deviennent esclaves. C'est donc une théorie sur le très nombreux. Le très nombreux porterait en soi la nécessité d'un esclavage, éventuellement général ou éventuellement restreint. Or, comme je l'ai fait remarquer, nous vivons à l'ère du très nombreux, la statistique est notre lot quotidien, que ce soit en politique ou que ce soit ailleurs. Si Tibère a raison, est-ce que cela fait de nous des esclaves? Allons plus loin. J'ai parlé de la démocratie antique, qui est au régime du nombreux. Mais la démocratie contemporaine, elle existe. Plus encore, deux auteurs majeurs du XIXe siècle, l'un Balzac et l'autre Tocqueville, se sont interrogés sur la question du très nombreux. Et Balzac constate l'émergence du très nombreux par opposition au nombreux, et il la constate après les guerres napoléoniennes. En quelque sorte, c'est Napoléon qui fait que le très nombreux fait irruption sur la scène européenne, et à partir de lui, le très nombreux existe, et chez Balzac, la matérialisation du très nombreux, c'est Paris. La société contemporaine, Paris, sont le très nombreux. Et sa thèse, c'est qu'il ne peut pas y avoir de politique du très nombreux. Il peut y avoir une société du très nombreux, mais il ne peut pas y avoir de politique du très nombreux. C'est pourquoi il est réactionnaire en politique. Parce qu'il considère que comme il n'y a pas de politique du très nombreux, c'est-à-dire de politique moderne possible, puisque le très nombreux, c'est la forme du moderne, puisqu'il ne peut pas y avoir de politique du très nombreux, alors il ne peut y avoir de politique qu'anti-moderne, c'est-à-dire réactionnaire, et son grand homme, c'est Metternich, c'est-à-dire le plus réactionnaire des hommes politiques de la période de Balzac. Tocqueville, lui, a une position tout à fait différente. Il dit « oui, la société est désormais à l'ère du très nombreux ». Mais il faut chercher, il ne faut pas renoncer d'avance, il est peut-être possible qu'il y ait une forme politique du très nombreux. Mais on ne la trouvera pas en Europe. L'Europe ne connaît de forme politique que les formes politiques du nombreux. Donc il faut aller ailleurs, et il est allé en Amérique. Et en Amérique, il a trouvé la forme politique qui convient aux très nombreux, c'est la démocratie. D'où son titre, « De la démocratie en Amérique », ce qui s'interprète « De l'avenir du très nombreux en politique ». Contrairement à Balzac, il pense qu'il n'y a pas seulement une société du très nombreux, mais il peut y avoir une politique du très nombreux. Contrairement à Balzac, il ne pense pas que la politique doive être réactionnaire par rapport à la société, il pense que la politique peut s'adapter à la société, puisque la société est une société du très nombreux, elle peut devenir une politique, elle doit devenir une politique du très nombreux, mais pour trouver cela, il faut voyager. Il faut quitter la vieille Europe, il faut aller aux États-Unis, et ce qu'on trouve, c'est la démocratie. Mais faites bien attention, démocratie devient, sous la plume de Tocqueville, un mot équivoque, ou même, pour reprendre l'expression de Freud, un sens opposé dans les mots primitifs. Puisque dans la démocratie telle qu'elle était héritée des Grecs, c'est une démocratie du nombreux, et qui exclut le très nombreux représenté par l'Empire perse. Tandis que chez Tocqueville, le très nombreux, la démocratie devient la forme politique du très nombreux, c'est-à-dire exactement le contraire, où on peut tirer deux conclusions, c'est que Tocqueville est comme Lamarck, il pense que les organismes peuvent s'adapter en changeant de milieu, la politique peut s'adapter en changeant de milieu, en Europe, la politique, le gros animal dont parle Platon, c'était en quelque sorte un animal terrestre qui était habitué à des tailles, disons, proportionnées. Le gros animal de la politique, désormais devra être un animal gigantesque. Et j'aime à penser que le roman qui projette Tocqueville en roman, c'est Moby Dick. C'est La Baleine Blanche. La politique, comme des organismes vivants, doit s'adapter au changement du milieu, du mammifère terrestre, quadrupède, herbivore, tout ce que vous voulez, enfin, un mammifère comme il est normal qu'il soit, on passe au mammifère marin, gigantesque, qui s'est adapté au changement de milieu. Et ce changement de milieu, c'est que la Terre est limitée par la mer, mais que la mer n'est pas limitée par la Terre. La Terre est de l'ordre du nombreux, la mer est de l'ordre du très nombreux. Voilà là, en quelque sorte, la parabole qui permet d'expliquer l'usage du mot démocratie chez Tocqueville. Problème, sans s'opposer dans les mots primitifs. La démocratie du nombreux, c'est une démocratie qui permet la liberté de tous. La démocratie du très nombreux, eh bien, pour comprendre ce qu'elle entraîne comme conséquence, je reviens sur le sondage d'opinion. Le sondage d'opinion, c'est ce qui permet de connaître l'opinion de ceux qui ne l'expriment pas. Autrement dit, quand on pratique bien la statistique, vous savez que les Français, préfèrent le Nespresso au Nescafé, sans avoir besoin d'interroger tous les consommateurs de Nespresso et Nescafé. Il suffit de faire un sondage. Et à partir de ce sondage, vous concluez, moyennant des calculs, et des calculs parfaitement fiables, je ne mets pas du tout en doute ces calculs, que les Français préfèrent effectivement le Nespresso au Nescafé. Mais si on arrive à ce résultat sur l'opinion des Français à partir d'un sondage qui se présente d'emblée comme partiel, c'est ça l'avantage, c'est comme ça qu'on vend les sondages à Nestlé. On lui dit, mais écoutez, si vous deviez interroger un à un tous les consommateurs de Nespresso et de Nescafé, vous en auriez pour des milliards et des milliards d'euros ou de dollars. Mais nous, sondeurs, bien entendu, nous demandons d'être bien payés, mais ce sera beaucoup moins, et le résultat sera aussi fiable. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait l'opinion des consommateurs de Nespresso et de Nescafé, même quand on ne les interroge pas. Donc le sondage d'opinion, c'est d'abord le sondage qui permet de connaître l'opinion de ceux qui n'expriment pas cette opinion. Et la même manière, le sondage d'opinion ne peut pas se substituer au vote, parce que le vote ne fonctionne que sur les votes exprimés, alors que le sondage d'opinion repose sur les opinions non exprimées. À partir de quelques opinions exprimées, mettons 1000, c'est en gros le chiffre, par la méthode des quotas ou n'importe quelle méthode, vous arrivez à connaître l'opinion de tous les autres Français. C'est-à-dire, à partir de 1000, eh bien, vous connaissez l'opinion des 30 millions de Français qui ont une opinion politique. Ben, de 1000 à 30 000, ça fait une différence. Bon, ça veut dire que vous connaissez l'opinion des 30 millions en n'ayant pas interrogé les 29 999 000 que vous n'avez pas interrogé. Moi, j'appellerais ça, en référence à l'alchimie, le caput mortuum, la tête morte. Le caput mortuum, c'est le résidu inerte d'une opération, en l'occurrence alchimique. Autrement dit, vous avez, par des opérations alchimiques, produit quelques grammes d'or, et puis il y a le caput mortuum qui reste dans votre éprouvette ou dans votre atanor, enfin peu importe, qui peut être 45 kilos, mais de matière inerte. qui ne valent rien par eux-mêmes. Et je dirais que le sondage opinion, la statistique, repose crucialement sur un caput mortuum, qui est que par rapport aux quelques grammes d'or des opinions effectivement exprimées et consultées par les sondeurs, vous avez tout le reste des opinions non exprimées sur lesquelles la statistique permet d'énoncer un diagnostic. Si on en revient aux êtres parlants, cela veut dire que, à l'ère du très nombreux, la politique repose sur le fait qu'il y a un caput mortuum d'êtres parlants qui ne parleront jamais. Autrement dit, le contrat originaire de la politique, qui est qu'on se tait parce que la promesse est faite que la parole vous reviendra, se heurte dans le dispositif du très nombreux au réel qu'il y en ait en petit nombre ou en très grand nombre, peu importe, ce n'est pas la question. Dans le très grand nombre, il y a toujours un caput mortuum d'êtres parlants qui ne parleront jamais, qui sont donc hors du dispositif du contrat politique originaire. Et en ce sens, Tibère a raison, le très nombreux produit de la servitude. Notre démocratie, dans la mesure où elle est au régime du très nombreux, de la statistique dans l'ensemble des domaines de la vie, peut-être bientôt dans le domaine de la politique, le très nombreux génère nécessairement un caput mortuum d'êtres parlants qui ont définitivement perdu le statut d'être parlant. Alors, comment faire? Comment faire? Bien, je dirais que, deux choses au moins. L'une, qui est une forme de résistance, c'est refuser en tout cas que le caput mortuum porte un nom. Autrement dit, qu'on dise, oui, bien entendu, il y a nécessairement des êtres parlants qui perdront leur statut d'être parlant. Mais ce n'est pas vous. Vous, on vous promet que la parole vous reviendra. C'est pas vous parce que c'est un tel. Ce sont telles personnes qui portent un nom. Et si leur nom est effectivement précis, on garantit effectivement deux prédestinations. D'une part, la prédestination de ceux qui portent ce nom. Ils sont prédestinés à ne jamais parler, à ne jamais redevenir être parlant, ou ne jamais l'être, à être à l'état de choses inertes dans le fonctionnement de la société. Et l'autre prédestination, c'est ceux qui ne portent pas ce nom, qui sont prédestinés à retrouver un jour, peut-être tout de suite, peut-être demain, mais un jour, c'est une promesse, à retrouver la parole et le statut d'être parlant. Dans les penchants criminels de l'Europe démocratique, j'ai repris volontairement en écho ce titre, j'avais proposé qu'en Europe au moins, un nom dans l'histoire européenne avait été donné à ceux qui étaient prédestinés à ne pas être des êtres parlants, à être des choses inertes dans le fonctionnement de l'histoire, de la politique et de la société. J'invite ceux qui ne l'ont pas fait à ouvrir ce livre pour reconnaître, trouver de quel nom il s'agit. J'ai tendance à penser que la démocratie du très nombreux a vocation à s'étendre de manière universelle. Le paradoxe, comme je l'ai dit, c'est que la démocratie du très nombreux n'est peut-être qu'un autre nom de l'Empire. et que peut-être la démocratie universelle, si elle est cela, c'est en fait un autre nom de l'Empire universel. Si j'ai raison concernant l'Europe démocratique du passé, il est possible que le nom que l'Europe démocratique avait choisi comme nom prédestiné de ceux qui sont voués à perdre la parole et à être des choses, que ce nom devienne à son tour universellement prédestiné au même usage. Je ne ferai pas semblant de faire semblant. Ceux qui ont lu Les penchants de l'Europe démocratique et ceux qui ne l'ont pas lu savent que, à mes yeux, ce nom est le nom juif. Deuxième chose. Après la résistance, autrement dit, dire non à toute procédure qui assigne un nom au caput mortuum. En Europe et dans le monde de la démocratie du très nombreux, vous savez quel nom j'ai choisi sur la base d'une étude factuelle. J'admets tout à fait que dans d'autres espaces, ce soit d'autres noms. Dans la démocratie américaine telle que Tocqueville l'avait décrite, le nom de ceux qui étaient voués à ne jamais parler, c'était les Indiens. C'était les Indiens. Il me semble que peu à peu la démocratie américaine s'européanise, mais peut-être que j'ai tort. Mais après la résistance, il y a autre chose à faire. La résistance, donc refuser qu'un nom soit donné au prédestiné à devenir chose. Après la résistance, je dirais qu'il faut pratiquer une stratégie qui est celle que le très nombreux a longtemps pratiquée. C'est une stratégie d'usure, de parasitage, de fragmentation, de fracturation. Nous sommes parasités par le très nombreux, nous sommes parasités par la statistique. Eh bien, je crois qu'il nous est aussi possible de parasiter le très nombreux. Autrement dit, rendre au 1 sa pertinence. Faire en sorte que le plus 1 ou le moins 1 fasse une différence. Alors ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des actions. Qu'une action de plus ou de moins fasse une différence, c'est en soi ramener la politique à ce qu'elle était à l'époque antérieure au règne du très nombreux. Mais ça peut être de l'ordre de l'écriture. Après tout, l'écriture, c'est considérer qu'une phrase de plus ou de moins, qu'un mot de plus ou de moins, ça fait une différence. J'ai conversé avec Jean-Louis Comolli et parlions du cinéma, et j'ai eu le sentiment, en lui parlant, que j'avais, dans mon fort intérieur, je faisais une différence entre le cinéma et le film. Le cinéma, ses moyens matériels sont contemporains de l'avènement du très nombreux. Ils sont contemporains de l'avènement de la grande ville, des foules. Et c'est aussi pour cette raison que les régimes totalitaires se sont servis du cinéma. Mais les films, c'est autre chose. Parce que chaque film part du principe qu'un film de plus ou de moins, ou que dans un film une image de plus ou de moins, ou que dans un plan, une phrase ou un geste de plus ou de moins, ça fait une différence. Je dirais donc que le film se rebelle contre ses propres moyens de production. Alors que le cinéma tente à obéir à ses propres moyens de production. Donc, de manière plus générale, tout ce qui relève des arts, de la littérature, et aussi d'un certain type de politique, et aussi d'un certain type de ce qu'on appelait autrefois l'engagement, tout cela peut obtenir une fracturation du très nombreux. Non pas par en attaquant le très nombreux de face, non pas en disant « je hais les foules et je me tiens à l'écart », c'est pas la question. C'est fracturer, fragmenter, parasiter ce fonctionnement du très nombreux. Je vois avec plaisir que le banquet de la grâce entre dans l'ère du nombreux. Je n'exclus pas que grâce à une presse écrite et parlée assidue, qui écrit des articles de grande pénétration, qui porte, je pense notamment à un journal qui s'appelle L'Indépendant, je crois, une maîtrise de la langue remarquable. Je ne doute pas que, moyennant la rumeur qui court des abbayes aux universités, que moyennant des subsides qui nous viennent en abondance du Qatar, ça se déplace du PSG à la grâce. Donc, il est possible, je ne dis pas qu'on peut l'espérer, mais il est possible que, après être passé aux nombreux, on passe aux très nombreux. Eh bien, je dirais que c'est comme le film. Même si les moyens de production du banquet deviennent les moyens de production du très nombreux, le banquet pourra continuer de se rebeller contre ses propres moyens de production et de faire en sorte qu'une intervention de plus ou de moins, ça puisse faire la différence.